On a découvert que la torture était pratiquée de manière industrielle en Ouzbékistan. Il s'agissait de milliers de cas chaque année. Ce que j'ai aussi constaté à travers les centaines de cas que j'ai pu vérifier, c'est que la torture était toujours utilisée dans le même but, celui de faire avouer aux prisonniers qu'ils connaissaient Ben Laden et qu'ils étaient membres d'Al-Qaïda.
Freedom itself was attacked this morning by a faceless coward. The resolve of our great nation is being tested. But make no mistake, we will show the world that we will pass this test.
Le 11 septembre 2001, l'Amérique déclare la guerre au terrorisme. Il y a les champs de bataille connus, l'Afghanistan des talibans, puis l'Irak de Saddam Hussein. Mais loin des bombes, une autre offensive est déclenchée. Une guerre invisible menée par les Américains chez nous, en Europe. Depuis 2005, des témoignages mettent en cause la CIA pour des opérations illégales menées sur notre sol. Enlèvement de citoyens européens, transfert par avion privé de la CIA, détention arbitraire dans des prisons secrètes et torture. Nous avons enquêté sur cette guerre secrète en Europe. Vote historique aujourd'hui au Parlement européen. Pour la première fois depuis sa création, il lance une enquête sur les activités secrètes de la CIA en Europe. 46 députés issus d'une quinzaine de pays européens sont désignés, les apprentis inspecteurs à l'assaut du plus puissant service secret du monde. À leur tête, le président de la Commission, Carlos Coelho, 46 ans, ancien secrétaire d'État portugais, centre-droit. Sarah Ludford, libérale britannique, baronne de son État, 55 ans. Et l'Italien Claudio Fava, socialiste sicilien, fils d'un journaliste tué il y a 20 ans pour ses enquêtes sur la mafia.
Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'abus ces dernières années dans la lutte contre le terrorisme. Notre commission a eu pour but d'enquêter sur ces abus et de comprendre quelles sont les responsabilités des pays de l'Union européenne. Qui a décidé de ne rien voir, qui de ne rien comprendre et qui a décidé de collaborer activement avec la CIA dans ces abus?
Pendant 6 mois, les parlementaires nous ont laissé suivre leurs investigations. De mars à juillet 2006, nous avons vécu de l'intérieur les rebondissements de cette enquête hors norme. La première audition qui fait date dans l'enquête de nos députés, c'est en avril 2006, avec celle de ce citoyen allemand d'origine libanaise, Khaled El Masri. Il accuse la CIA de l'avoir enlevé illégalement en Europe et séquestré pendant 5 mois en Afghanistan. C'est son avocat qui raconte l'essentiel de cette étrange histoire. Elle met en scène un avion privé, un enlèvement à la frontière macédonienne et de mauvais traitements.
Ils l'ont amené à l'aéroport de Skopje. On lui a fait passer un examen médical dans une pièce à part. On lui a bandé les yeux, on l'a ligoté. Il ne savait pas ce qui lui arrivait. Subitement, plusieurs personnes ont commencé à le frapper. Coup de pied et coup de poing de toutes parts.
C'est la première fois qu'il y a une victime qui part dans une sede institutionnelle comme le Parlement européen.
L'affaire El Masri a été révélée 3 mois plus tôt par la presse américaine. Aujourd'hui, il est trop éprouvé pour affronter les micros.
Comprenez, c'est une histoire très dure à vivre pour lui. Et je veux éviter qu'il ne craque à nouveau. Ça lui est déjà arrivé pendant une interview.
Nous sommes donc allés chez lui, à Ulm, dans le sud de l'Allemagne. Réfugié politique, 38 ans, marié, père de 4 enfants. Avant sa mésaventure, Khaled El Masri vendait des voitures d'occasion. Aujourd'hui, il est au chômage.
Je suis originaire du Liban. Je suis arrivé en Allemagne en 1985 et je suis naturalisé allemand depuis 1994.
Son cauchemar débute en décembre 2003. Confronté à des problèmes familiaux, pour souffler, Khaled El Masri se paye un tour d'Europe en bus. Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie, Serbie, tout va bien. Le 31 décembre, il arrive en Macédoine. C'est là que les ennuis commencent. Lors d'un classique contrôle douanier, il est arrêté, interrogé, puis immédiatement transféré dans un hôtel de la capitale, Skopje.
J'ai été longuement interrogé par des Macédoniens en civil, mais armés. J'ai été gardé au secret, allongé sur un lit. Même quand j'allais aux toilettes, la porte devait toujours rester ouverte. Ils ne me lâchaient pas des yeux. Durant les 23 jours de ma détention, je n'ai pu prendre qu'une seule douche. Et même pendant cette douche, il y avait quelqu'un qui me regardait.
Pendant sa détention, un détail l'a frappé.
Dans cette pièce, il y avait un ordinateur. Au bout d'une semaine environ, enfin je ne me souviens plus exactement, ils ont décidé de l'allumer et ils se sont mis à regarder des films porno et d'autres choses que je ne pouvais pas voir.
Après ces 3 semaines de séquestration, l'affaire se complique encore. Khaled El Masri affirme avoir été emmené par des hommes cagoulés et vêtus de noir. Il est jeté dans un avion civil, les yeux bandés, ligoté à son siège. Après 12 heures de voyage et une halte à Bagdad, il atterrit en Afghanistan, à Kaboul.
Dès la première nuit de ma captivité, des hommes cagoulés m'ont emmené dans une salle d'interrogatoire où il y avait d'autres hommes, eux aussi cagoulés, qui attendaient. Il y avait un traducteur arabe et un médecin américain qui n'a pas dit un mot. Le traducteur m'a dit qu'ils étaient tous américains. Dès cette première nuit, on m'a fait comprendre très clairement, tu es dans un pays où il n'y a pas de loi, on peut t'enterrer ou t'oublier pendant 20 ans, personne ne saura ce que tu es devenu. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai survécu, parce que cette prison n'était vraiment pas faite pour des êtres humains.
Dans cette prison, il dort à même le sol, on lui jette des restes de repas. Après 5 mois de détention au secret, des agents américains lui annoncent qu'ils se sont trompés de personne. Un avion privé le ramène alors quelque part, en Europe.
Lorsqu'ils m'ont relâché, en pleine forêt et de nuit, je ne savais pas où aller. D'un geste de la main, on m'a indiqué un sentier. C'était un endroit complètement lugubre. J'ai cru qu'ils allaient me tirer dessus. 400 mètres plus loin, il y avait 3 hommes en uniforme et armés. Ils ont contrôlé mes papiers d'identité et m'ont emmené dans une cabane. Au-dessus de la porte, il y avait un drapeau albanais.
Khaled El Masri parvient finalement à rejoindre l'Allemagne. Voici la première photo prise au terme de sa mésaventure. Il raconte son histoire à un avocat qui fait éclater l'affaire 8 mois plus tard dans la presse américaine. À ce moment, pour le gouvernement Bush, Khaled El Masri est un mythomane. Et en Allemagne, grande prudence, on affirme ne pas avoir été informé de sa disparition. Une plainte est déposée, le parquet de Munich est saisi. Nos députés européens décident d'enquêter sur cette histoire. 1 mois après l'audition de Bruxelles, direction la Macédoine. Là-bas aussi, les autorités ont toujours nié la version d'El Masri. Mais à la lecture des différentes versions, quelque chose ne colle pas.
Je suis en train de relire tout ce que nous avons. Toutes les déclarations et toutes les dépositions officielles des gouvernements allemands et macédoniens, et je les compare avec ce que El Masri nous a dit en commission. Une chose est sûre, c'est que sa version est radicalement différente. Il est clair que quelqu'un ne dit pas la vérité dans cette histoire, et notre voyage en Macédoine va nous aider à comprendre qui dit la vérité et qui ment.
Ancienne petite république yougoslave, la Macédoine est aujourd'hui candidate à l'entrée dans l'Union européenne. 1 heure après l'atterrissage, nos 5 parlementaires mandatés par Bruxelles ont rendez-vous avec le chef de l'État.
En tant que président de la République, je vous assure que toutes les institutions macédoniennes concernées par cette affaire sont à votre entière disposition pour vous aider à établir la vérité. Je souhaite que cet entretien, que j'ai le plaisir d'avoir avec vous, soit un bon point de départ pour votre visite et votre travail en Macédoine.
Après les formules de politesse, nous sommes invités à quitter la salle. Derrière cette porte, le président répète la version officielle. Après avoir été interrogé à la frontière, Khaled El Masri a été autorisé à rentrer sur le territoire macédonien pour y passer 23 jours de vacances. À la sortie, nos députés sont sceptiques.
Il y a un trou de 23 jours. C'est impossible que cet homme ait disparu.
Il y a des choses que je ne comprends pas. Si tu es au pouvoir et qu'on accuse ton gouvernement de choses aussi graves, tu devrais tout faire pour apporter les preuves de ton innocence.
La position des Macédoniens est simple. L'histoire commence après ces 23 jours, lorsque les Américains récupèrent El Masri. Pour eux, ce n'est donc pas leur problème.
C'est pas leur problème.
Le lendemain, rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, Lubomir Mihailovski, l'homme chargé du dossier El Masri.
Monsieur Romeva d'Espagne et Monsieur Czarnecki de Pologne.
Nous ne pouvons pas assister à l'entretien, mais nous en avons récupéré le script. La députée européenne affirme.
Je suis désolée, mais pour nous, il est clair qu'El Masri était détenu ici et qu'un avion de la CIA a quitté Skopje pour Kaboul en passant par Bagdad le 24 janvier 2004.
Réplique du ministre.
Nous avons l'immatriculation de l'avion qui quitte Skopje, mais nous ne savons pas si c'est un avion de la CIA.
Question du rapporteur.
Le ciel de Bagdad était fermé en cette période de guerre. Comment expliquez-vous que cet avion ait pu voler de Skopje à Bagdad ?
Réponse du ministre.
On ne vérifie pas les avions privés. Si vous savez ce qui se cache derrière tout cela, merci de me le faire savoir.
À la sortie, face à la presse, le langage est beaucoup plus diplomatique.
Aujourd'hui, nous avons rencontré la commission d'enquête européenne. Nous avons eu des échanges de vues constructifs. Et j'espère que ce que nous avons dit permettra d'élucider cette affaire. Je pense désormais que les rumeurs selon lesquelles les services de police macédoniens sont impliqués dans cette histoire vont pouvoir s'effacer.
Sa déclaration terminée, nous avons encore une petite question à lui poser. Monsieur le ministre, à l'intérieur de l'hôtel Skopski Merak, El Masri était-il libre ?
Oui, dans l'hôtel, il était libre.
Et il a payé la note ?
Oui, enfin, je suppose, on ne l'aurait pas laissé partir s'il n'avait pas payé sa note.
Les parlementaires n'ont pour le moment obtenu qu'une seule information, mais elle est de taille. C'est le nom de l'hôtel où El Masri a passé ses soi-disant vacances.
C'est la première fois qu'il dit que El Masri a été pour 23 jours dans l'hôtel, dans cet hôtel.
Voici cet hôtel. Situé dans un quartier résidentiel de la capitale, à 300 mètres de l'ambassade américaine. Pour le visiter, nos députés enquêteurs ont préalablement appelé le directeur de l'établissement avec qui ils ont rendez-vous.
Est-ce que quelqu'un est au courant que nous devions rencontrer le directeur ?
Dis-leur d'éteindre la caméra si on veut discuter.
Vous pouvez couper la caméra ?
Le directeur a disparu, il serait subitement parti en vacances. Malaise. Une heure plus tard, le réceptionniste accepte finalement de faire la visite. Arrivé au troisième étage, chambre numéro 11. C'est ici qu'El Masri aurait été séquestré. Première observation, tout concorde. La chambre correspond en tout point à la description faite par El Masri. Jusqu'à l'ordinateur posé sur le bureau.
C'est difficile d'imaginer qu'un chômeur qui arrive d'Allemagne en bus, avec très peu d'argent en poche, puisse passer 23 jours dans cette chambre pendant les fêtes de fin d'année. Il nous manque une partie de la vérité. Qui l'a amené ici et qui l'a maintenu ici ?
Est-ce qu'on va voir les autres chambres ?
Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Elles sont toutes pareilles, les chambres. La seule chose qu'on pourrait faire, c'est de jeter un œil au registre de l'hôtel.
Bon. Ok, on s'en va.
Mais ils ne verront jamais ces registres. Nos députés n'ont en fait pas le pouvoir de saisir des documents. Seulement celui d'interroger des témoins quand ils ne sont pas partis en vacances.
C'est normal que nous n'ayons rien trouvé. Le directeur de l'hôtel savait que nous allions venir. Alors il s'est pris quelques jours de vacances. Donc les choses qu'on a entendues, on le savait déjà. La vraie surprise, c'est s'il nous avait attendu pour nous dire « Mon Dieu, vous avez tout découvert. Vous êtes ici dans un hôtel de la CIA. » Eh non, je ne m'y attendais pas.
Fin de leur visite. Les députés rentrent à Bruxelles. Nous, nous sommes restés à Skopje. Deux jours plus tard, retour à l'hôtel et bonne surprise, nous tombons nez à nez avec le directeur. Et vous venez de rentrer de vacances ?
Yes.
Oui.
C'était bien ?
Yes, excellent.
Oui, excellent.
Pour la suite de l'interview, le directeur nous emmène dans la fameuse chambre numéro 11. Et pour montrer sa bonne foi, il nous propose de nous la louer.
Voilà la prison dans laquelle El Masri a été séquestré. Je ne crois pas vraiment que cette chambre ressemble à une prison.
Combien ça coûte, cette chambre, pour une nuit ?
Le prix normal est de 100 euros.
Vous ne trouvez pas que c'est un peu cher pour quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'a pas d'argent ?
C'est pas mon problème. Il a payé cash. Il a payé cash, je m'en souviens.
Vous vous souvenez de ça ?
Je m'en souviens. En tout cas, je peux le voir d'après les factures.
Je peux voir la note ?
Pas maintenant. Les factures qui ont plus de 2 ans, on ne les garde pas ici. Mais si vous restez jusqu'à demain, pas de problème.
Donc demain, c'est possible, je la verrai.
Ouais, c'est possible.
Le lendemain, le directeur de l'hôtel est reparti en vacances. Nous ne verrons jamais la facture. Mais désormais locataire de cette chambre, nous en profitons pour faire parler l'ordinateur. Là, en quelques clics, nous accédons à l'historique de la machine. La zone dans laquelle sont mémorisées toutes les dernières opérations faites sur un ordinateur. Devant nos yeux, défile alors la preuve que cette chambre n'est pas une chambre d'hôtel comme les autres. Explication. Ici, depuis 2001, toutes les chambres sont équipées d'un ordinateur connecté à Internet et mis gratuitement au service des clients. Nous avons consulté plusieurs ordinateurs de cet hôtel. Leurs historiques font apparaître des connexions quotidiennes et des centaines de pages consultées. Au troisième étage de l'hôtel Skopski Merak, dans la chambre numéro 11, c'est très différent. L'ordinateur n'a été allumé que 3 fois entre 2003 et 2006. Parmi ces 3 dates, figure celle du 8 janvier 2004, le 8e jour de la séquestration présumée de Khaled El Masri. Vous souvenez-vous à quel moment ils ont allumé l'ordinateur de la chambre ?
Après environ 1 semaine, peut-être un peu plus.
Notre enquête en Macédoine confirme les affirmations de Khaled El Masri. Reste à comprendre pourquoi il a été enlevé. Retour en Allemagne. Nous retrouvons Khaled El Masri. Il nous emmène cette fois-ci à la mosquée qu'il fréquentait 1 fois par semaine avant son arrestation. Elle est aujourd'hui fermée car jugée trop radicale. À l'époque, elle était placée sous la surveillance des services secrets allemands.
Toutes les questions que l'on me posait en Macédoine et ensuite en Afghanistan, concernait principalement cette mosquée et les gens qui la fréquentaient.
Dans cette mosquée, Khaled El Masri rencontre un militant islamiste radical, Reda Seyam, suspecté d'avoir financé les attentats de Bali en 2003. Comment l'avez-vous rencontré, Reda Seyam ?
J'ai connu Reda Seyam ici, dans cette mosquée, dès mon arrivée en Allemagne. À l'époque, nous étions tous les deux à la recherche d'un appartement.
Ce n'est pas parce qu'on fréquente une mosquée qu'on est terroriste. D'ailleurs, ni le procureur, ni la police ne le considèrent comme quelqu'un de proche du terrorisme. Il venait juste prier dans cette mosquée, la seule dans la région. Rien de plus, rien de moins.
Aucun doute pour l'avocat, les Allemands ont prévenu les Macédoniens de l'arrivée de son client.
Les gens qui surveillaient cette mosquée savaient parfaitement qu'une des personnes qui venait prier de temps en temps ici allait faire un voyage en bus jusqu'en Macédoine. On a appris que dans l'ordinateur des douaniers macédoniens, il y avait une information concernant l'arrivée de Khaled El Masri. Lors de son passage à la frontière, l'ordinateur a donc donné l'alerte sur la base d'informations envoyées par les Allemands. Donc, il y a forcément eu un contact direct entre les Allemands et les Macédoniens.
Les autorités allemandes ont-elles livré l'un de leurs ressortissants à la CIA ? Nous avons rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur de l'époque, Otto Schill. Il accepte de nous recevoir, mais quand il comprend que nous souhaitons évoquer l'affaire El Masri, il refuse de démarrer l'interview et nous demande de quitter la pièce.
Non, désolé, nous devons arrêter. Comprenez, c'est un cas sensible pour moi. Non, comprenez-moi bien, je pourrais avoir des ennuis.
Au printemps 2006, le Parlement allemand a décidé lui aussi d'enquêter sur l'affaire El Masri.
Si un citoyen allemand est suspecté d'activités illégales qui peuvent se révéler dangereuses, alors il appartient à la police allemande de suivre l'affaire. On ne peut pas admettre sans s'en inquiéter qu'un service secret étranger agisse à notre insu.
1er juin 2006, le BND, les services secrets allemands, ont reconnu dans un communiqué qu'un de leurs agents était au courant de l'enlèvement d'El Masri depuis le début. Mais selon ce communiqué, l'agent secret en poste à Skopje aurait oublié de prévenir sa hiérarchie.
Ne pouvant être sûr de cette information, l'agent a préféré ne pas la transmettre. Nous ferons le nécessaire pour que ce genre de panne d'information ne se reproduise plus au sein de nos services.
Ce que le gouvernement allemand savait de l'affaire, nous l'ignorons pour l'instant, mais on finira par l'apprendre. Ce qui est clair, c'est que les autorités allemandes aient été au courant ou non, de toute façon, il faudra bien qu'elles réorganisent la boutique. Il n'est pas possible qu'un agent des services secrets qui reçoit une information pareille ne la transmette pas à ses autorités.
Les premiers travaux de l'enquête des députés mettent déjà à mal la version officielle allemande. Plusieurs agents des services secrets doivent être prochainement entendus dans le cadre de cette enquête. Enlevés puis séquestrés en Europe, transférés illégalement à Kaboul, maltraités pendant 5 mois par des agents américains. Pour se reconstruire, Khaled El Masri attend toujours que les autorités allemandes et américaines reconnaissent enfin son histoire. À Bruxelles, les eurodéputés viennent d'obtenir un document essentiel pour comprendre les transferts illégaux de détenus. La liste des plans de vol secrets des avions de la CIA. Un document confidentiel fourni par Eurocontrol, l'organisme chargé de surveiller le ciel européen.
J'ai vérifié les documents d'Eurocontrol.
C'est vrai, tu l'as fait ?
Oui, et on y trouve bien l'avion d'El Masri. Il est parti de Skopje pour aller vers Kaboul, en passant par Bagdad.
Ils ont pu suivre la trace du vol ?
Oui, il y a tout. J'ai vu le numéro de vol, la date et les horaires. Tout correspond avec ce que nous a dit El Masri. Comment pouvait-il connaître l'existence de ce vol ? Ce n'est pas un avion de ligne et personne n'a accès à ces documents.
Bien sûr.
Donc nous pouvons dire que son histoire est bien réelle.
Ces plans de vol sont un tournant dans l'enquête des parlementaires qui convoque une conférence de presse.
Après avoir examiné les documents qui nous ont été fournis par Eurocontrol, nous pouvons affirmer qu'au cours des dernières années, dans l'espace aérien et dans les aéroports des pays membres, associés ou candidats à l'Union européenne, il y a eu plus de 1000 vols effectués par des avions de la CIA.
6 vols en Pologne, 59 au Portugal, 210 en Angleterre, 430 en Allemagne. En France, les enquêteurs n'ont pointé que 6 vols litigieux sur lesquels la justice enquête. Sur ces 1000 vols, seule une dizaine aurait servi à transférer illégalement des prisonniers de la CIA. Et pour ces opérations clandestines, on retrouve les mêmes avions. Ce Boeing, immatriculé N313P, et au moins ses 3 Gulfstream. Avec ces avions, a été mis en place un gigantesque réseau de vols secrets. Des rotations régulières effectuées entre Washington et Kaboul, avec des escales à travers toute l'Europe. L'un des aéroports les plus suspects, c'est Chimany, en Pologne, terminus de plusieurs de ces vols. Situé au nord du pays, nous nous y sommes rendus. C'est un ancien aéroport international qui a vu atterrir Brejnev et Castro, mais qui est aujourd'hui quasiment désaffecté. C'est le directeur qui nous reçoit. C'est ici le fameux aéroport ?
Oui, c'est le plus connu au monde.
L'aéroport est doté d'une piste longue de 2 km, conçue pour accueillir des gros porteurs. En 2003, des avions civils affrétés par la CIA auraient atterri ici à 2 reprises. Le gouvernement polonais a pour l'instant toujours nié, mais le directeur est beaucoup moins catégorique.
Oui, je ne le nierai pas. Je n'étais pas là à cette époque et je ne suis directeur que depuis 2004. Mais c'est une histoire connue ici. Je vous confirme que ces avions atterrissaient bien ici. Aussi bien un Boeing que des Gulfstream.
Depuis 3 ans, si ces fleurs ont remplacé les avions sur le tarmac de l'aéroport international de Chimany, le souvenir des vols secrets de la CIA, lui, n'a pas disparu.
Voilà, c'est ici que la piste commence. Ce Boeing est venu de là-bas et il s'est arrêté ici. Il n'a pas circulé, il s'est juste arrêté ici. Il a atterri, puis il est reparti. Ils sont juste venus pour regarder les cigognes, en fait.
À une dizaine de kilomètres de là, nous avons retrouvé une ancienne employée de l'aéroport. Lorsque les avions de la CIA se sont posés à Chimany, elle était présente. Ce dont elle fut témoin alors ne ressemble pas vraiment à une visite pour admirer les cigognes. Craignant pour sa sécurité, elle accepte de témoigner à visage caché.
À l'époque où je travaillais à l'aéroport, des avions type Gulfstream et Boeing ont atterri à Chimany. Ces avions avaient un comportement étrange. Ils ne venaient jamais vers les places de stationnement habituelles. Ils s'arrêtaient toujours sur la piste à une grande distance du terminal. Ils se positionnaient pour que leurs portes s'ouvrent toujours en direction de la forêt, afin que l'on ne puisse pas voir qui montait ou descendait de ces avions. Des officiers de la police des frontières venaient vers ces avions. C'est étrange car normalement, il n'y a jamais d'officiers de police présents lors des opérations internationales.
Et pour l'aéroport, la CIA était un très bon client.
Le paiement pour l'opération d'atterrissage et les services de l'aéroport ont été faits en cash. La plupart du temps, le lendemain. Les factures portaient le nom de sociétés américaines. C'était des entreprises différentes. Et les paiements étaient toujours faits en cash. Il est très facile de retrouver ces factures, car ce sont des sommes beaucoup plus élevées que la normale pour ce type d'avion. Ils payaient beaucoup plus, 3, 4, 5 fois plus. Il y avait toujours des officiers de la police des frontières qui s'approchaient des avions. On les voyait parler avec le capitaine. Et puis, lorsqu'ils s'en allaient, des minivans aux vitres fumées qui attendaient en bordure de forêt venaient jusqu'aux avions. C'était les minivans de la base Kiekuté, une base des services secrets polonais.
Il existe effectivement une base des services secrets à une dizaine de kilomètres de cet aéroport. À côté de ce lac, en pleine forêt, voici ses antennes. Les minivans dont se souvient notre employé ont-ils permis de transférer des détenus de la CIA ? Cette base est découpée en secteurs bien protégés que l'on peut apercevoir sur cette photo satellite. L'un de ces secteurs est exclusivement géré par les Américains. Il pourrait abriter une prison secrète de la CIA. Diana Priest, journaliste vedette du Washington Post. Elle a été récompensée pour son enquête sur ces prisons secrètes. Son contact, un agent des services américains, l'a convaincue de leur existence en Europe.
Dans les pays d'Europe de l'Est où ces prisons ont existé, bien sûr les gouvernements savaient. Ils ont autorisé leur installation. À chaque fois, il y a eu des accords pour que cela reste secret. C'est la raison pour laquelle la commission d'enquête du Parlement européen fait un travail impossible. Les gouvernements concernés ne leur diront pas la vérité.
À l'appel d'Amnesty International, manif devant l'ambassade américaine.
Par chance, si vous volez avec nous, vous passerez au-dessus de toutes les lois ennuyeuses. Torture Airline, on n'est pas prêt de vous lâcher.
Une poignée de militants des droits de l'homme est venue dénoncer les vols secrets de la CIA. Parmi eux, la baronne Ludford en colère. Jusqu'à présent, aucun ministre des gouvernements européens n'a répondu présent aux demandes d'audition de sa commission d'enquête.
Il doit y avoir une enquête sur ces actions illégales pour lesquelles nous avons des preuves. Il faut inverser les choses. C'est au gouvernement de trouver la vérité et de nous la dire. Nous avons besoin de votre soutien pour les obliger à nous donner ces réponses. Je suis convaincue qu'on trouvera la vérité. Elle sera pénible, mais il n'y a qu'elle qui nous permette de rétablir notre autorité morale. Cela veut dire de retrouver la sécurité dans ce monde. Car nous ne sommes pas plus en sécurité en brisant les droits de l'homme. Au contraire, cela nous met en danger. La liberté fait partie de la sécurité. Ils ne sont pas opposés.
Ici, en Angleterre, un homme estime lui aussi que la lutte antiterroriste telle qu'elle se pratique aujourd'hui met nos démocraties en danger. Craig Murray, 48 ans, dont 21 passés au service de Sa Majesté comme diplomate. Son dernier poste, ambassadeur en Ouzbékistan.
On a découvert que la torture était pratiquée de manière industrielle en Ouzbékistan. Il s'agissait de milliers de cas chaque année. Ce que j'ai aussi constaté à travers les centaines de cas que j'ai pu vérifier, c'est que la torture était toujours utilisée dans le même but, celui de faire avouer aux prisonniers qu'ils connaissaient Ben Laden et qu'ils étaient membres d'Al-Qaïda.
Quand Craig Murray apprend que ces informations obtenues sous la torture sont transmises aux autorités anglaises, il alerte son supérieur, le ministre des Affaires étrangères, Jack Straw. Extrait du message que Craig Murray envoie à son ministre.
Les Américains nous ont transmis des informations obtenues sous la torture par les services secrets ouzbeks. Cela est moralement et légalement condamnable. J'ai constaté des centaines de cas et je n'en ai quasiment vu aucun pour lequel la torture telle qu'elle est définie par la Convention des Nations Unies n'ait été employée.
L'ambassadeur termine en citant l'article 2 de la Convention des Nations Unies, signé aussi bien par l'Angleterre que par les États-Unis.
Que l'on soit en guerre ou en menace de guerre, qu'il y ait des risques de guerre civile ou toute autre forme de menace, rien de tout cela ne peut être évoqué pour justifier le recours à la torture.
Aucune réponse officielle de son ministre, mais un entretien informel avec l'un de ses adjoints lui révèle que le gouvernement anglais assume.
Sir Michael Wood m'a dit que ce n'était effectivement pas légal pour nous d'obtenir des informations sous la torture. Mais il m'a dit aussi que l'on pouvait en obtenir légalement à condition que quelqu'un d'autre le fasse à notre place et sans que nous l'ayons demandé. S'il torturait à notre place, là c'était légal. C'est aussi très important de dire que les services britanniques et la CIA partagent toutes leurs informations. On m'a dit directement qu'à cause de cet accord, les Anglais étaient obligés d'avoir la même politique que les Américains sur la torture. Dans cette guerre contre la terreur, la torture devient légitime.
Pour Craig Murray, aucun doute. Vol secret et torture sont liés. C'est ce qu'il est allé dire devant la commission du Parlement européen à Bruxelles. Après ces déclarations, il a été licencié. Son gouvernement a lancé 18 procédures contre lui, pour entre autres alcoolisme aggravé, trafic de devises et déviance sexuelle. Des accusations infondées, balayées en quelques semaines par une enquête judiciaire. Pourtant, monsieur l'ambassadeur pointe désormais au chômage, carrière brisée. Les responsables américains ont refusé de venir témoigner à Bruxelles. 15 parlementaires se rendent donc à Washington. Nos députés veulent interroger ceux qui ont pensé le programme d'enlèvement en Europe. L'administration Bush et l'état-major de la CIA. Dans le bus, on retrouve le portugais Carlos Coelho, président de la commission. La baronne Ludford et l'italien Claudio Fava.
Comme je le dis depuis le début, c'est très important pour nous de rencontrer l'autre partie dans cette histoire. On va entendre ce que l'administration américaine et les membres du Congrès vont nous dire à propos de ces avions.
Cocktail de bienvenue. Sans les Américains pour l'instant. C'est l'ambassadeur de la Commission européenne à Washington, John Bruton, qui régale. Il leur souhaite bien du courage.
Sincèrement, les problèmes abordés dans ce cas sont extrêmement difficiles et très sensibles. Les Américains ne plaisantent pas avec leur sécurité.
Les eurodéputés à l'assaut de l'Amérique. L'une des plus optimistes, c'est la baronne Ludford. Ici, elle se sent presque en croisade.
Mon espoir, c'est d'aider les Américains à comprendre que cette politique est inefficace pour eux.
Pour la première fois, le Parlement européen, qui représente les peuples d'Europe, enquête sur une affaire qui implique directement des gouvernements européens, ce qui n'a jamais été fait. De mon point de vue, le fait d'être ici est déjà un bon résultat. Car nous n'avons pas obtenu des gouvernements européens les mêmes attentions que celles que nous avons obtenues des Américains.
Le surlendemain, Chiesa et ses amis ont un premier rendez-vous avec les autorités américaines.
Le tour opérateur nous a prévu une petite visite du Congrès. On nous a calé un rendez-vous avec un parlementaire. On va bien voir ce qu'il a à nous dire.
15h. C'est au Sénat que les parlementaires doivent rencontrer Robert Wexler, élu démocrate de Floride. Problème, le sénateur n'est pas là. Où il est ?
Il est avec le ministre des Affaires étrangères jordanienne, mais il va arriver dans une seconde. On est en train de lui dire de se dépêcher, là.
Mais il va venir.
Ah oui, il va venir. En ce moment, on a 3 rendez-vous en même temps.
20 minutes plus tard, Robert Wexler, enfin. C'est un opposant résolu à Bush. Les parlementaires fondent donc de sérieux espoirs.
Bonjour, enchanté.
Bonjour, Sarah Ludford, je suis la vice-présidente.
C'est l'un des rares hommes politiques américains qui admettent ici que les vols secrets en Europe ont bien existé.
Je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous consacrez. Nous avons demandé à plusieurs membres du Congrès de nous rencontrer. Malheureusement, ils n'ont pas eu le temps ou peut-être pas eu l'envie de le faire. Nous souhaitons donc vraiment vous remercier.
La réunion se tiendra à huis clos. Et de retour dans le bus, la commission d'enquête avoue, le rendez-vous avec le sénateur Wexler les a déçus.
Il nous a dit, écoutez, si vous me forciez à faire un choix entre l'anti-américanisme primaire des Européens et être derrière Bush, je choisirais Bush à 100%, même si je ne suis pas 100% d'accord avec lui.
Tu dis n'importe quoi, nous ne faisons pas de l'anti-américanisme primaire. Je suis une libérale de droite. Je ne suis en aucun cas une anti-américaine. Et toi, tu te prétends être un Européen ?
Non, je suis un Britannique et je pensais que toi aussi.
Tu fais partie de l'Europe ?
Non, pas du tout. Moi, je suis anglais, je viens du Nil. C'est un continent à part.
De toute façon, sur quel continent tu vis ? Sur quelle planète tu vis ?
Le lendemain, retour à l'annexe du Sénat. Rendez-vous avec un autre élu démocrate, Ed Markey. Arrivé dans la salle, mais mauvaise surprise, elle est déjà occupée.
Bonjour, nous sommes du Parlement européen. Nous avions rendez-vous avec Ed Markey. Vous attendiez quelqu'un d'autre, peut-être ?
Bonjour, enchanté.
En fait, ici, on attend une commission pour une réunion sur le Nigeria. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit.
Maintenant ?
Nos députés européens seront finalement reçus par le sénateur dans une autre salle. Ed Markey n'a que 10 minutes à leur consacrer. Devant eux, il évoque une arrestation illégale de la CIA.
Maher Arar, qui est un citoyen canadien, a été arrêté à l'aéroport de JFK de New York. Il a été transporté en Syrie par la CIA, où il a été torturé. Nous n'avons jamais trouvé de preuves qui le lient à une activité terroriste. Aujourd'hui, il a pu rentrer chez lui.
Le sénateur démocrate a tenté de faire passer une loi aux États-Unis contre ces enlèvements. Mais il n'a trouvé aucun soutien au Parlement. Sa loi n'est jamais passée. Les députés ont voulu rencontrer les dirigeants de la CIA. Refus. C'est finalement un ancien directeur de l'agence, James Woosley, qui s'y colle. Patron de 93 à 95, aujourd'hui il est consultant, proche de l'administration Bush.
Monsieur le Président, en réalité, je n'ai rien à vous dire. Vous m'avez invité pour parler d'un sujet qui n'a jamais été abordé quand je dirigeais la CIA. Et en plus, je n'ai eu aucune information sur cette question. Mais bon, je suis venu. Posez-moi des questions si vous le souhaitez. Mais je vous préviens, ça risque d'être court et surtout assez ennuyeux.
Son audition vire à la mauvaise blague. James Woosley ne répondra à aucune question des parlementaires.
Nous avons appris l'utilisation des nocomes quand les grains chassent d'un vieux chef de service secret. Nocomes, presque toutes les questions.
La mission des eurodéputés s'embourbe. Pas de réponse à leurs questions et aucun écho à leur venue. Les médias américains boudent leur visite. Alors on se console avec une photo souvenir un peu crispante. Dernier espoir avec le rendez-vous le plus important pour les enquêteurs européens. Direction le département d'État, le ministère des Affaires étrangères américain. La secrétaire d'État, Condoleezza Rice, a bien sûr décliné l'invitation. Ils vont être reçus par un conseiller juridique, John Bellinger, le numéro 3 du département d'État.
Vous savez, la dernière fois que je suis venu ici, c'était il y a 5 ans, et l'administration américaine avait annulé tous les rendez-vous. On a fait plein de déclarations désagréables. Aujourd'hui, c'est différent. Quelqu'un nous reçoit, alors on est content.
Pendant l'entretien, on installe le tapis rouge. Mais il n'est pas là pour les députés européens. Une délégation japonaise est attendue. Les enquêteurs, eux, sortent par la petite porte. L'entretien s'est mal passé. Alors, c'était comment la rencontre ?
La réunion a commencé par plusieurs menaces. Ils nous ont expliqué clairement que nous n'avions pas la légitimité d'enquêter sur le gouvernement américain et que les États-Unis n'étaient pas du tout disposés à nous laisser travailler ici.
Ils ont bien sûr tout nié en bloc. Le fait de violer les lois, le fait d'envoyer des gens dans des pays où la torture est pratiquée.
Je suis content car ils ont été embarrassés à plusieurs reprises. Et je suis content car j'ai vu leurs difficultés à répondre précisément à nos questions.
4 jours d'enquête et aucun élément nouveau. Washington continue de nier. Il n'y a eu aucune violation de la souveraineté européenne. Mais rebondissement. De retour dans leur bureau de la Commission européenne à Washington, ils trouvent un fax. Un énorme scandale est en train d'exploser à Rome.
L'affaire va éclater dans le prochain numéro de l'Expresso. Pour la première fois, on apprend qu'un gendarme italien avoue avoir pris part au kidnapping d'un certain Abu Omar. Le chef des services secrets italiens, le général Polari, nous avait pourtant assuré que les autorités italiennes n'étaient au courant de rien. Maintenant, nous avons la preuve que la police italienne et les services secrets ont pris part à cette opération.
Niccolò Polari, le chef des services secrets, nous a menti. Polari nous a menti.
Of course.
Niccolò Polari, le voici. Vous connaissiez M. Abu Omar ? C'était en mars 2006, Le chef des services secrets italiens était alors auditionné à Bruxelles au tout début de la commission d'enquête. L'affaire dont il doit parler concerne l'enlèvement à Milan de Abu Omar, un imam égyptien réfugié politique en Italie. L'histoire qui déstabilise aujourd'hui l'État italien est rocambolesque. Elle commence ici, en 2003, derrière ce garage. Une mosquée intéresse la justice italienne. Des islamistes radicaux y sont repérés et placés sous la surveillance de la police. Au palais de justice de Milan, le juge italien chargé du dossier à l'époque, c'est Guido Salvini.
En 2003, nous avons découvert une cellule qui était suspectée de planifier des attaques terroristes en Italie. Et celui qui était chargé du recrutement pour cette cellule était Abu Omar, l'imam d'une importante mosquée de Milan. Un jour, alors que nous étions en train de surveiller Abu Omar, ainsi que la mosquée dans laquelle il recrutait ses militants, il a disparu dans une rue de Milan.
Nous sommes rue Gerzoni à Milan. C'est là, au numéro 34, qu'a eu lieu l'enlèvement d'Abu Omar. Il sortait de chez lui, il a dit à sa femme qu'il allait se rendre à la mosquée. Et ici, une camionnette blanche s'est approchée avec à l'intérieur au moins trois hommes habillés à l'occidental. Quelqu'un est descendu de la camionnette et lui a demandé ses papiers dans un italien parfait. Abu Omar a donné ses papiers et c'est à cet instant qu'on lui a pulvérisé un produit sur le visage.
Abu Omar est jeté dans la camionnette. Il disparaît. Il refait surface quelques heures plus tard, en Égypte. Dans une prison où il est détenu pour appartenance à une mouvance terroriste. Pour l'instant, aucun procès n'est prévu. Pour faire la lumière sur cet enlèvement, un procureur italien a été nommé en 2005. Lui aussi a témoigné devant la commission d'enquête européenne. Il s'agit du numéro 1 de la lutte antiterroriste en Italie, Armando Spataro. Son témoignage est accablant. Il affirme que c'est la CIA qui a bien enlevé Abu Omar en plein Milan. À l'aide d'un diaporama, Spataro dévoile les visages et les noms des agents américains qui ont participé à l'opération.
Je peux maintenant vous présenter les agents qui ont pris part à l'enlèvement. Nous avons retrouvé des copies de leurs papiers d'identité dans un hôtel. Je les ai reproduits dans l'état où ils ont été trouvés. Certaines photos ne sont pas très lisibles. D'autres, par contre, comme cette dernière notamment, est particulièrement claire. Celle-ci également. Mais il y a d'autres personnes poursuivies, en plus de celles dont nous avons vu les photos. Voici rapidement leurs noms. Parmi eux, le numéro 17, Lady Robert, qui est connu par les autorités italiennes pour être le responsable de la CIA à Milan.
Identification des téléphones portables des agents de la CIA, reconstitution de leur déplacement le jour de l'enlèvement. Devant les parlementaires pendant une heure, les preuves se succèdent et la conclusion du magistrat est sans appel.
Je finis en affirmant que le séquestre d'Abu Omar est un grave délit pour la liberté des personnes et contre la souveraineté italienne. Mais cela a surtout porté un préjudice grave à la lutte contre le terrorisme. Car la police était en train de faire une enquête approfondie sur Abu Omar. On peut raisonnablement affirmer que s'il n'avait pas été enlevé, les enquêtes de la police auraient mené à son arrestation. Il serait aujourd'hui jugé en Italie, ce qui aurait pu permettre l'identification de ses complices.
Armando Spataro a demandé l'extradition de ses 25 agents de la CIA. Mais le ministre italien de la Justice s'y est toujours opposé. Roberto Castelli n'est plus en poste aujourd'hui, mais il assume.
Je ne voudrais pas que l'Italie donne l'image d'un pays où les terroristes se promènent en liberté. Mais je ne veux pas que mon pays donne l'image d'un pays qui pratique la chasse aux chasseurs de terroristes. Notre peuple ne comprendrait pas. En Italie, avant tout, on se doit de combattre les terroristes.
Mai 2006, l'affaire rebondit. L'Espresso, un hebdomadaire italien, recueille les confidences d'un carabinier. Nom de code Ludwig. L'homme avoue avoir donné un coup de main aux agents de la CIA. C'est lui qui aurait interpellé Abou Omar en lui demandant ses papiers au moment de son enlèvement. Extrait de l'article.
Le carabinier nous a dit qu'il n'y avait pas que des agents de la CIA au moment de l'opération. Plusieurs militaires italiens ont participé à cet enlèvement. C'est le plus gros revers pour le gouvernement Berlusconi qui nie depuis 3 ans la participation d'Italiens au sein du commando qui a enlevé Abou Omar.
Accusé, le gouvernement Berlusconi continue de nier. Et ce sont les services secrets qui trinquent. Le numéro 2 du 6000, les services secrets italiens, Marco Mancini, est arrêté et placé en détention provisoire. Son supérieur, Niccolò Pollari, celui qui avait été auditionné à Bruxelles, contre-attaque. Il met en cause l'un des bras droits de Berlusconi. Dernier rebondissement tragique, à Naples, un témoin clé disparaît.
L'enquête s'oriente vers le suicide en ce qui concerne la mort d'Adamo Bové, le responsable de la sécurité des télécoms italiennes qui s'est jeté d'un pont du périphérique de Naples. Le nom de Bové était apparu dans l'enquête délicate de l'enlèvement d'Abou Omar.
Adamo Bové, c'est lui qui avait aidé le procureur Spataro dans son enquête en lui livrant les écoutes téléphoniques qui ont permis d'identifier les agents de la CIA. Au moment où l'affaire s'emballe, Adamo Bové fait une chute de 30 mètres du haut de ce pont. La police évoque pour l'instant un suicide. Une enquête a été ouverte. L'enlèvement d'Abou Omar, la détention de Khaled El Masri, la découverte de l'aéroport polonais de Chimani. En 6 mois d'enquête, nos députés ont acquis la conviction que certains pays européens ont coopéré étroitement et en toute illégalité avec la CIA. Une première partie de mission accomplie pour nos eurodéputés.
Nous avons découvert de nombreux mensonges sur les relations entre les gouvernements européens et la CIA. Nous avons pu donner la parole à certaines victimes. Elles ont été entendues pour la première fois. Et je crois que malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées depuis le début, nous avons découvert de nombreux faits et avancé vers la vérité. Dans ce sens, c'est un succès. Mais on va surtout faire en sorte que ce qui s'est passé ne se reproduise plus.
Claudio Fava et ses collègues ont obtenu du Parlement la prolongation de leur mandat pour une durée de 6 mois. Désormais, nos députés espèrent entendre les principaux responsables politiques des pays concernés. L'Italie, la Grande-Bretagne, la Pologne. Et nouvelle très encourageante, le 6 septembre dernier, pour la première fois, George Bush reconnaissait l'existence de prisons secrètes de la CIA hors du sol américain.